Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les casseurs sont très vite entrés en action, notamment autour de la place de l'Étoile.
Les grands moyens ont donc été employés pour évacuer une partie de la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce soir, les autorités se disent satisfaites.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis que nous nous sommes lancés dans cette auto-rétrospective commentée de la première saison de Programme B, un thème tourne en fond dès qu'on s'attaque à tel ou tel sujet. Qu'on cause, comme on l'a déjà fait, de société numérique, de climat ou de travail, on en arrive toujours au point où on évoque la question de la mobilisation. Et c'est peu dire que de ce point de vue, l'année écoulée a été plutôt chargée. On a eu l'occasion de s'intéresser aux marches pour l'urgence environnementale, à la grève des femmes en Suisse pour l'égalité, aux conflits sociaux à l'hôpital ou à la SNCF, mais aussi et surtout au mouvement qui aura marqué un tournant de la présidence Macron, celui des Gilets jaunes. Source de nombreuses interrogations sur nos systèmes politiques, médiatiques, sur les crises qui ne cessent de secouer notre société depuis une trentaine d'années et sur les réponses ou l'absence de réponses qui en découlent. Vous l'aurez compris, c'est à cette thématique très actuelle de la mobilisation que sera consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Les Gilets jaunes, on a eu l'occasion de les aborder de multiples façons. L'une de celles qui, moi, m'a le plus marqué, c'est la conversation qu'on a eue avec ma camarade Victoire Toyon des Couilles sur la Table, avec la professeure de philosophie Elsa Dorlin, sur le fait que si le mouvement était composé de beaucoup de femmes, celles-ci semblaient disparaître dès que la situation s'envenimait et que démarraient les affrontements avec les forces de l'ordre.
Alors c'est clair qu'une femme qui use de violence, ou qui passe à la violence, elle est pathologisée. Donc c'est vraiment toute la problématique, c'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont exprimées dans une expression qui était qualifiée de violente sont des exceptions. Et la plupart d'ailleurs ont été pathologisées, mais pas seulement dans les discours. C'est-à-dire si je pense à une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française qui a appelé à porter les armes, à créer des bataillons de femmes et qui s'appelle Thérouanne de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire elle a été internée de force.
Et elle a été oblitérée de l'histoire.
Exactement, et oubliée de l'histoire. Donc je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, l'encadrement, la surveillance, etc., la surveillance médicale.
Elsa Dorlin met le doigt sur un élément essentiel en sous-texte, la nécessité de voir ces mouvements dans une perspective historique. C'est pour cette raison que notre guide dans cet épisode, ce sera une historienne, Danielle Tartakovsky, spécialiste des mouvements sociaux, ancienne présidente de l'Université Paris 8. J'ai commencé par lui demander si on avait réellement vécu une année exceptionnelle en termes de mobilisation ou si finalement les cycles médiatiques faisaient qu'on avait tendance à oublier que chaque année apporte son lot de manifs, de conflits et de protestations.
Oui, je crois qu'on oublie, et j'ai eu la curiosité il y a quelque temps, pour une circonstance de même nature, de reprendre les dates de la manif pour tous. Je me suis aperçu qu'elle avait commencé, je crois que c'était un 10 novembre, enfin en tout cas à la mi-novembre, et qu'elle s'était terminée à 26 mai, c'est-à-dire très exactement la durée des Gilets jaunes. Alors évidemment, je ne les compare pas au-delà, hein, on n'a pas du tout le même type de mouvement, mais je crois un petit peu que quand on reprend des mouvements antérieurs, on s'aperçoit qu'ils sont certes tous différents, mais qu'ils avaient également une certaine ampleur et que chacun d'entre eux présente sa spécificité.
Et c'est quoi du coup la spécificité des mouvements de cette année, et donc évidemment du plus emblématique sans doute d'entre eux, qui était le mouvement des Gilets jaunes?
Bon, alors d'abord, j'aurais tendance à dire d'abord l'espace investi, parce que c'est l'espace investi qui a déterminé la nature des acteurs, d'une certaine manière. Donc les ronds-points, initialement, et non pas la rue, donc un espace périurbain et non pas urbain, alors que si on accepte le mouvement Poujade, les mouvements de rue, par définition, se sont développés en France dans l'espace urbain.
C'est ce que j'allais dire, c'est une vraie spécificité, ça ne s'était pas vraiment vu avant ça, avant donc,
si,
évidemment des épisodes tels que Poujade.
Le mouvement Poujade qui n'a strictement aucun rapport avec les Gilets jaunes, je le tiens à dire nettement, puisqu'il y a eu des comparaisons abusives qui ont été faites au départ. Et puis bien évidemment, les mouvements d'agriculteurs, mais ils montent à la ville. Donc, globalement, parce que nous sommes dans un pays où la rue a fait et défait les régimes pendant plus d'un siècle, c'est vrai qu'il y a une aspiration à l'espace urbain, et non seulement à l'espace urbain, mais à la rue. Si on compare avec l'invention des manifestations en Allemagne ou en Angleterre ou en Autriche au tournant du siècle dernier, les manifestants se rassemblaient dans des espaces verts. Bon, en France, on n'a jamais manifesté au but de Chaumont. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, les ronds-points, et puis, évidemment, très rapidement, cette dualité du mouvement, le rond-point et les manifestations dans l'espace urbain, qui présentent à leur tour une spécificité, puisqu'elles ne sont pas déclarées. Ça s'est déjà vu, c'est relativement exceptionnel en France, mais ça n'est pas inédit. Je relisais pas plus tard qu'hier des éléments sur les ce qu'on appelait la révolte des banlieues, terme sans doute inadéquat, bien évidemment. Et un certain nombre de les premières manifestations lycéennes pré-CPE, il n'y avait pas non plus de demande d'autorisation. Ça va de soi pour les émeutes urbaines, mais c'était moins évident pour les premiers mouvements lycéens. Donc c'est pas tout à fait inédit, mais c'est quand même relativement exceptionnel. Avec un double déplacement, puisqu'on monte à Paris. Alors c'est vrai que les paysans qui se situaient à la droite de l'échiquier politique dans les années 30 disaient à Paris, c'est vrai que Poujade disait à Paris, mais ils n'y allaient pas. Ils viennent à Paris, je ne dis pas. Et ils viennent à Paris donc, et dans un espace qui est perçu comme l'espace des pouvoirs et des riches, donc il y a une double extériorité
dans des quartiers spécifiques de Paris.
Ce qui était alors là, je pense qu'il y aura un avant et un après, parce que c'est vrai que jusqu'à ce jour, et nonobstant bien évidemment la manifestation gaulliste du 30 mai 68, les Champs-Élysées étaient un espace sanctuarisé.
C'était plutôt Bastille, République, ce type d'axe.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. La coupure Est-Ouest est un petit peu un fantasme. On peut y revenir si vous le voulez. Mais les premiers qui ont revendiqué les Champs-Élysées dans des périodes relativement contemporaines, ça a été la Gay Pride. Les catholiques en 83, au moment des manifestations pour la défense de l'école libre, en arguant d'ailleurs du précédent du 30 mai 68, mais qui était un peu particulier, les ministres en tête et le portrait du général de Gaulle brandi. Donc les Champs-Élysées n'ont jamais été attribués et d'une certaine manière c'était un petit peu intériorisé comme un impossible. Il s'est passé quelque chose.
On l'a dit, penser la mobilisation, c'est nécessairement penser en partie en termes d'histoire. Pour ce qui est des Gilets jaunes, on a vu émerger des références pas toujours très joyeuses. On a beaucoup parlé de poujadisme, du nom de Pierre Poujade, leader populiste des années 50 auprès duquel Jean-Marie Le Pen avait fait ses armes, mais aussi des années 30, de la crise de février 34 et ses émeutes nées suite à des manifestations des ligues d'extrême droite. Si ces comparaisons sont loin d'être justifiées à 100%, elles sont par contre assez logiques quand on considère notre obsession sans cesse renouvelée pour le milieu du XXe siècle, pour la charnière qui des années 30 aux années 50 a vu l'Europe plonger dans le nazisme, la guerre et en sortir en bâtissant les démocraties qu'on connaît aujourd'hui. J'avais posé au cours d'un épisode la question de ce retour permanent à cette époque à l'historien Christian Ingrao, spécialiste du Troisième Reich.
Il y a quelque chose qui fait que il me semble qu'on va y revenir de plus en plus, encore de plus en plus fréquemment ou intensément, c'est le fait que les grands systèmes civilisationnels qui ont été proposés après la guerre, par l'ensemble des alliés, c'est-à-dire la société de consommation ouest européenne et on va dire la société socialiste du pacte de Varsovie, sont des sociétés qui sont entrées en crise dans les années 80. Et depuis, nous cherchons un nouveau modèle politique. Tant que nous n'aurons pas trouvé un modèle politique qui sera un modèle politique unifié d'un côté et qui proposera un avenir à l'ensemble des populations qui sera intégratif, nous n'aurons aucune raison de passer par-dessus ce trauma.
Cette crise du modèle, elle est au cœur du mouvement des Gilets jaunes et elle explique à la fois les références que j'évoquais plus tôt, mais aussi le reste des points de comparaison historiques qu'on a vu émerger du côté des manifestants. Et ça, je laisse à Daniel Tartakovsky le soin de le détailler.
C'est vrai qu'on a eu immédiatement une très forte mobilisation de l'histoire de deux natures. Et alors, évidemment, la mobilisation de l'histoire, elle est d'autant plus forte qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne sait pas comment nommer.
Oui.
Alors, quand on ne sait pas nommer, ben, on se réfère à ce qu'on connaît.
Histoire
et donc,
la rattacher.
Donc voilà. On cherche. Et je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les approches immédiates des chercheurs, historiens, sociologues, politistes et des journalistes. Et là, chacun a amené le champ qu'il connaissait le mieux. Et donc, on a tout trouvé. Et puis, l'usage que les acteurs eux-mêmes ont fait de l'histoire. Et moi, ce qui me frappe, d'abord, c'est qu'on a immédiatement un usage de l'histoire, puis il s'efface. C'est-à-dire que quand le mouvement trouve son rythme, ses images, sa dynamique propre, on n'a plus besoin, ou on n'a plus besoin au même titre, de ce rapport à l'histoire. Et donc, c'est en gros acte 1, 2, 3, peut-être encore un petit peu 4, mais 1, 2, 3 de façon extrêmement forte. Et alors, qu'est-ce qu'on mobilise le plus ? Qu'est-ce qu'il mobilise le plus ? Il faudrait évidemment affiner le travail. Hein. Mais a priori, la Révolution française, bien sûr, alors une Révolution française qui peut être retranscrite par Delacroix, hein, avec la figure très présente du Delacroix qu'on a vu partout. Et puis, 68. Bon, comme les auditeurs ne voient pas que je suis en train de mettre des guillemets
des
à 68.
Guillemets, effectivement, de larges guillemets à 68.
Quand il dit 68, c'est le 3 ou 11 mai. Hein, c'est les barricades parisiennes,
oui.
Point. C'est pas la suite de l'histoire qui est une suite complexe. C'est-à-dire que les deux temps qui sont mobilisés sont des temps de mouvement inorganique. La Révolution française l'est par définition, hein, puisqu'elle est, elle est créatrice de notre politique contemporaine.
Oui.
Donc, elle est inorganique par essence. Et le début de 68 est inorganique également. Mais après, les choses, évidemment, se compliquent et deviennent plus contradictoires. Et je crois que ça disait bien à la fois la volonté de s'inscrire dans une histoire de la mobilisation collective, de la difficulté à dire ce qu'on était, peut-être de la volonté de ne pas dire ce qu'on était parce que c'était work in progress. Et en même temps, cette distance, je préfère dire distance, à la politique, aux politiques, et donc à une histoire qui a incarné ces politiques.
Mais justement, cette distance, cette volonté apolitique, et voire cet antipolitisme, cet antiparlementarisme aussi qu'on a retrouvé dans pas mal de slogans, ça a fait écho, ça a donné lieu en tout cas à des comparaisons avec, je la citais tout à l'heure, la crise de février 34, qui est souvent ressorti lorsqu'il y a des mouvements à la droite de la droite. Pour le coup, là, on a vu ressortir des slogans qui dataient de l'époque des ligues. Il y a eu quelque part une inscription, alors peut-être qui n'était pas communément partagée par tout le mouvement, mais il y a eu une inscription aussi dans cette histoire-là.
Je crois qu'il faut être très attentif à la comparaison avec les années 30, que nous mobilisons tous.
Qui est récurrente en ce moment.
Oui, qui est très récurrente
ces dernières
depuis
années.
Une petite dizaine d'années, on va dire. Bon, c'est le symptôme de ce que ça ne va pas très bien, indéniablement. Ça n'est pas un moment... Je suis comme tout le monde. Je ne prétends pas pouvoir définir de façon catégorique les Gilets jaunes qui sont un mouvement composite... Je crois que justement, ce qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas de nom, et qu'il n'est pas. Mais moi, je l'ai défini comme un mouvement miroir à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, pour moi, ce sont les deux modalités françaises du dégagisme. Et là, le dégagisme peut effectivement nous renvoyer à la crise des années 30. Alors, si dans la mobilisation des années 30, on entend dire que notre système politique, je ne mets aucun caractère péjoratif dans l'utilisation du terme système, est en crise totale, oui, l'antiparlementarisme qui était un aspect des revendications des Gilets jaunes, mais qui était un aspect me paraît extrêmement préoccupant dans la mesure où il s'inscrit parfaitement en phase avec les réformes constitutionnelles auxquelles aspire le président de la République. Donc, pour moi, nous avons affaire à un symptôme, et je dirais que la mobilisation des années 30 est un symptôme... plutôt qu'un moyen de définir.
L'une des spécificités de ce mouvement, et on a eu l'occasion de l'évoquer lors de notre épisode sur les sociétés numériques, c'est évidemment les relais, pour le coup très actuels, dont il a bénéficié, à savoir essentiellement Facebook, acteur à part entière de ces mobilisations. On en avait parlé avec Frédéric Filloux, ancien journaliste, désormais chercheur spécialisé dans les questions liées à l'information. Pour lui, justement, la crise médiatique, elle explique en grande partie la place énorme d'une plateforme comme Facebook dans le mouvement des Gilets jaunes.
Il suffit simplement de regarder quelques chiffres. Chaque jour, il y a 43 millions de personnes personnes qui se connectent sur l'Internet en France. Il y en a 29 millions qui se connectent sur Facebook, ce qui fait 67%. J'ai été stupéfait par ce chiffre que j'ai trouvé sur le site de Médiamétrie. Et lorsqu'on regarde sur une base annuelle, on est à 88%. Donc la capillarité de ce média est absolument gigantesque. Et quand on regarde l'audience, par exemple, que j'ai également regardé et mesuré, de par exemple les 6 premiers médias français, qui sont Le Figaro, France Info, BFM, 20 Minutes, Le Parisien, Le Monde, ils représentent collectivement une douzaine de millions de visites quotidiennes. Donc, par comparaison à ces 29 millions de visites sur Facebook, ça fait 41%. C'est extrêmement faible. Donc il y a un décrochage qui est absolument terrifiant.
J'ai demandé à Daniel Tartakovsky si cette dimension numérique du mouvement n'était pas finalement ce qui le rend presque inédit.
Alors, il y a une petite dizaine d'années, peut-être 12 ans, quand même, enfin une dizaine d'années, des collègues et moi avions organisé un colloque sur nouvelles technologies et mobilisation collective, et on était remonté jusqu'à la Révolution française et le télégraphe. Il faut arriver très vite, évidemment, au problème que vous évoquez. Il y a 10 ans, on avait tous très bien travaillé, et on avait des exemples donc, qui allaient un petit peu de la Révolution française jusqu'à surtout le très contemporain. Et il ressortait de ce colloque que quand des mouvements avaient une dynamique propre et une capacité de se développer, ben, ils étaient indéniablement aidés par l'existence de nouvelles technologies, mais que quand ils n'avaient pas grand-chose comme élément de mobilisation, les nouvelles technologies ne les sauvaient de rien. Il est clair que quelque chose s'est passé et que le quelque chose, il tient moins, je dirais, à la nature intrinsèque de ces dispositifs, puisqu'ils existaient il y a 10 ans, qu'à l'usage.
Oui, qui en effet.
Qu'en font des acteurs qui sont eux-mêmes des acteurs modifiés. Bon, nous savons bien, enfin, il a beaucoup été dit au moment des printemps arabes et plus généralement du mouvement des places dans sa diversité. Des collègues ont attiré l'attention en travaillant sur la place Tahrir, que l'Égypte, mais également d'autres pays qui ont connu les printemps arabes, étaient particulièrement sous-équipés en matière de nouvelles technologies, oui. Et que donc il fallait. Faut pas faire de déterminisme.
Il fallait relativiser.
Faut pas faire de déterminisme. C'est vrai on l'a beaucoup dit, les redéfinition. Là, on permis des groupes de proximité qui sont sans doute, à mon avis, le mouvement une phase du mouvement est terminée et ce qu'il en restera va changer de nature, mais j'ai tendance à penser que cette dimension de proximité, qui d'ailleurs est un facteur d'extrême diversité, est sans doute ce qu'il va y avoir de plus durable. Je ne sais pas quelle temporalité je mets derrière le mot durable, mais c'est bien clair qu'il y a plus de chances qu'on ait quelques effets en termes municipaux qu'en termes des européennes, où on n'en a eu aucun, oui. Par exemple. Et là, je crois effectivement que ça tient pour une part à l'usage nouveau et aux dispositifs nouveaux de ces nouvelles technologies.
Autre point crucial auquel nous nous sommes intéressés avec les Gilets jaunes, c'est la question de la représentation et le fait singulier que ce mouvement semblait ne pas avoir de leader identifié, de porte-parole. Aucun des relais auxquels traditionnellement les journalistes puis le public sont habitués en cas de mobilisation. J'avais évoqué cette singularité avec un autre historien, Yves Cohen de l'EHESS.
Ce qui a fait le lancement des Gilets jaunes et ce qui a fait que les Gilets jaunes ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, c'est cette contestation de l'augmentation de la taxe sur les carburants. Donc c'était un petit truc très économique, puisque c'était le budget du ménage, des gens qui allaient au boulot, qui revenaient du boulot, etc. C'était très, très économique. Et là, ça a très, très bien marché. Pour que cette revendication marche, il n'y avait pas besoin de leader. Et ce qui a été fantastique, c'est que la discussion là-dessus, la discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, et même sur la violence, ça s'est fait sur place, ça s'est fait dans les réseaux, ça s'est fait. Ce mouvement, comme les autres des mouvements des années 2010, justement, ils réfléchissent sur le fait que, eh ben, si on s'adresse à des syndicats, si on laisse des partis intervenir, etc., ça n'ira pas mieux. Qu'il y ait des gens qui veulent être porte-parole, ok, ça se comprend. Mais on a bien vu la discussion sur les porte-parole. En gros, ça n'a pas marché. Quoi.
Ils sont délégitimés quasiment immédiatement.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Non, on reste dans des formes d'échange horizontal. Et ça, c'est l'échange horizontal, c'est quelque chose de fondamental. C'est une critique du XXe siècle, si vous voulez.
Thank you. Ces mouvements sans leader mais au visage multiple, est-ce que c'est si nouveau que ça? J'ai évidemment posé la question à Daniel Tartakovsky.
Alors attention, parce que moi il me semble, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est un... qu'il y a la moindre similitude entre les différents mouvements que je vais évoquer, mais il me semble qu'à partir de 2005, on a été confronté à des mouvements successifs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres, mais qui présentent certaines similitudes du point de vue que vous évoquez. J'ai évoqué tout à l'heure la révolte des banlieues, les ZAD, évidemment Notre-Dame-des-Landes, Nuit debout, les Gilets jaunes, rien de commun, mais d'abord des mouvements... on occupe l'espace, donc on n'est plus dans cette vision un petit peu linéaire, on marche vers. Donc il y a un ici et maintenant. Bon, je sais bien que Nuit debout, il y avait quelques figures, mais enfin, pas de leader au sens où vous l'entendez.
En tout cas, il y avait cette revendication-là.
Absolument, on était dans la volonté de l'horizontale. Un rapport à l'État. Bon, la révolte des banlieues, l'État... Il n'y a pas d'interlocuteur non plus, on ne cherche pas à négocier, même si à un moment donné, Sarkozy rencontre un certain nombre de médiateurs. Bon, enfin, globalement, il n'y a pas de revendication explicite. Et donc, il faut lire dans les actes ce que cela peut vouloir dire.
Ce que ça veut dire, oui.
Nuit debout, c'est ici et maintenant. J'avais vu un film, il n'y a pas très long, enfin, un documentaire sur la Puerta del Sol.
Les Indignados en Espagne, du coup.
Et bon, les militants scandent oi, oi, oi aujourd'hui. Et il y a une militante qui intervient et qui dit parler d'avenir, c'est parler de la mort. Les ZAD revendiquaient quelque chose, mais d'une certaine manière, elles revendiquent l'autonomie. Donc, sans l'État. Et les Gilets jaunes, pas de négociation, pas d'interlocuteur. Enfin, ceux qui se présentent aux élections ne représentent pas les Gilets jaunes. Tout à l'heure, je parlais d'un effet miroir entre, enfin, de deux phénomènes miroirs entre Macron et les Gilets jaunes. Macron ne parle pas aux Gilets jaunes qui ne parlent pas à Macron. Et aucun des acteurs ne se donne le moyen d'une emprise ou d'une prise quelconque sur l'autre. D'où la stratégie extrêmement intelligente du grand débat, parce qu'il contourne, il se trouve un autre interlocuteur et il peut dire « mais je n'ai rien cédé aux Gilets jaunes, j'ai écouté les Français et je fais ce que veulent les Français ». Je crois que c'est un phénomène... Bon, bien sûr, ça a pris des formes spécifiques dans les différents mouvements, mais je crois que c'est plus large que le phénomène des Gilets jaunes.
Ça veut dire que, selon vous, depuis donc une quinzaine d'années, on s'est... C'est enclenché une crise de la représentation de manière générale, de plus en plus forte à chaque nouveau mouvement, chaque nouvel avatar qu'elle prend dans ces mouvements.
Absolument.
Nous, il y a un autre.
Moi, je ne dirais pas une crise. Enfin, crise de la représentation, indéniablement. Mais je crois. Et pourquoi il y a une crise de la représentation? J'ai fait il n'y a pas longtemps avec un collègue et néanmoins ami qui s'appelle Michel Margueraz et qui est historien économiste, un ouvrage qu'on appelait l'état détricoté de la résistance à la République en marche, de la résistance à la République en marche. Je crois que si on veut quand même aller au fond des questions et peut-être se donner les moyens de réfléchir à la suite, qui n'est pas simple. Tout à l'heure, je disais, je n'emploie pas le terme de système politique de façon péjorative. À la libération, enfin les acteurs... De la résistance ont élaboré à la libération un programme qui visait à l'élaboration, je cite, d'une véritable démocratie économique et sociale. Les mots importants, c'était véritable économique et sociale. C'est-à-dire que c'était une redéfinition de la démocratie, et cette redéfinition de la démocratie, il me semble qu'elle redéfinissait la citoyenneté, par là même elle redéfinissait la représentation. La citoyenneté, c'était pas uniquement le fait de voter, c'était l'implication dans tous les espaces qui étaient d'abord des espaces économiques et sociaux, puisque rappelons-nous que le programme, il précède les institutions, ils sont en désaccord surtout sur les institutions. Donc. Mais ils mettent en place des entreprises nationalisées, la sécurité sociale, et donc ça crée des espaces d'une citoyenneté redéfinie. Et il me semble qu'aussi longtemps que cet État social, il s'est pérennisé et développé, et 68 a permis d'aller pour la dernière fois, mais d'aller de l'avant dans le développement de la protection sociale et des mesures sociales, ça donnait sens à la représentation. Je crois que cette crise de la représentation, elle est indéniable. On ne peut pas véritablement la comprendre si on reste uniquement dans la sphère politique au sens parlementaire, et il faut la mettre en lien avec la crise des états sociaux à l'échelle planétaire.
Qui dit représentation dit aussi représentation médiatique. Et là encore, la crise des Gilets jaunes a été riche d'enseignements et pas forcément dans le bon sens du terme. La presse, et je m'inclus bien volontiers dans le lot, s'est retrouvée pris dans un fort désagréable étau entre un mouvement plutôt hostile aux journalistes et un gouvernement pas forcément plus amène, avec nombre de débordements, voire de confrontations très physiques de confrères avec les forces de l'ordre. L'apothéose, ça a été la garde à vue du reporter indépendant Gaspard Glanz, qui avait ouvert un grand débat au sein de notre profession sur ce qu'être journaliste veut dire. On avait posé la question à tout un tas de confrères et de consoeurs, notamment Olivier Truchot, qui est journaliste à RMC et BFM TV.
Moi, je pense que le journaliste, c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc le journaliste, il a toujours été finalement détesté. J'en parlais avec un historien de la presse et je me disais effectivement, est-ce qu'aujourd'hui les journalistes sont plus détestés qu'avant? Et en me disant, mais non, attendez, sous la Révolution française, les journalistes étaient détestés. En 68, les journalistes pouvaient être détestés parce que forcément, les journalistes empêchent un peu... Voilà, sont des poils à gratter. Donc quand on gratte, forcément, on peut déplaire au pouvoir, déplaire à ceux qui comptent à ce pouvoir. Et dans le cas des Gilets jaunes, on a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné, la presse est pro-Gilets jaunes et puis ensuite elle est anti-Gilets jaunes. Non, la presse a fait écho aux Gilets jaunes et puis ensuite elle a aussi démontré tous les travers de ce mouvement, les limites, etc. C'est le rôle du journaliste. Est-ce que le journaliste est là pour être aimé? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, à mon avis, que le journaliste est là pour être, il essaie d'avoir l'auditoire le plus large. Moi, je présente des émissions grand public, donc je suis content d'avoir plein de monde, d'avoir des grosses audiences, mais on n'est pas là pour plaire.
Pour ce qui est de la perspective historique autour de laquelle nous tournons depuis le début de cet épisode, j'ai demandé à Daniel Tartakovsky son avis sur l'évolution de la place de la presse dans les phases de mobilisation.
C'est plus grave que d'habitude. D'abord, c'est plus grave que d'habitude parce que je crois qu'il y a une très grande diversification de la presse. C'est vrai quand on disait presse, on pensait à la presse écrite. Ou à la télévision, mais qui était sous ordre, 68, libérer l'ORTF. Il y a une très grande diversification des acteurs. C'est vrai que quand on dit presse, enfin, quand les manifestants disaient presse, ils pensaient plutôt aux chaînes d'information continue télévisuelle, que par ailleurs, il y a certaines inquiétudes quant à l'attitude des pouvoirs publics au regard de la liberté de la presse et de la liberté de manifester, des libertés en général, et donc la tenaille que vous évoquez, elle est réelle. Et oui, je crois que c'est une situation très inquiétante.
Mais est-ce qu'elle est nouvelle particulièrement? Alors, ou est-ce qu'il y a déjà eu des on va dire, la démocratie n'en est pas à son premier, son premier séisme?
Comme je fonctionne toujours sur le siècle, je disais que jusqu'aux années 60, on ne parle pas en termes de médias. Les journaux sont des adversaires ou sont des alliés. Oui. Donc, le jour de l'inauguration de la statue de Dalou, place de la Nation, on va manifester devant la Petite République, parce que la Petite République a organisé la manifestation qui prolonge la commémoration de la statue de Dalou, qui permet pour la première fois au drapeau rouge depuis la Commune de descendre dans la rue. Donc, on va saluer les journaux amis. Ou alors, on se porte devant les journaux ennemis, oui, et on casse les vitres des journaux ennemis. Mais ce sont des acteurs politiques. Et c'est vrai que c'est quelque part dans post 63, enfin post la manif des mineurs, que j'avais commencé à trouver dans la presse est-ce qu'on passe à la télé, enfin où l'idée de passer à la télé, oui, devenait, donc c'est, je crois que c'est finalement l'irruption de la télévision dans tous les foyers qui modifie le rapport des acteurs à ce qu'on appelle les médias à ce moment-là. Patrick Champagne avait fait un article qui s'appelait « La manifestation de papier » où il évoquait ce retournement. Mmh. Il l'avait étudié à partir des manifestations d'agriculteurs en montrant que la violence des manifestations d'agriculteurs était quelque peu conditionnée par la volonté effectivement de passer à la télé.
Oui,
fabriquer des images. Mmh.
Mais du coup, qu'on veuille se mettre dans l'œil des médias, très bien, mais qu'on veuille à la fois se montrer et montrer sa défiance vis-à-vis des médias, est-ce que c'est un fait nouveau?
Mais je crois que c'est lié au délitement. Au délitement, je dirais des organisations, c'est devenu un mot sale aujourd'hui, mais enfin pas pour moi. Donc c'est vrai que dans la mesure où il n'y a plus de... où il n'y a plus, où il n'y a pas, où d'acteurs politiques au sens classique, des mouvements qui sont des mouvements... Enfin, c'est vrai que ce qui a caractérisé les Gilets jaunes, c'est qu'on n'était pas dans des stratégies de la rue, quand même. Donc, les acteurs individuellement réagissent, enfin, individuellement ou par petits groupes, réagissaient à partir de ce qu'ils percevaient d'une situation locale et ça peut produire des erreurs en matière de cible.
D'ailleurs, les difficultés des organisations classiques et notamment des syndicats, on s'y était intéressé également. On en a longuement reparlé avec Laurent Berger de la CFDT qui était notre invité lors de notre épisode consacré au travail que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter dans la foulée ou à réécouter tant qu'à faire. Merci à Daniel Tartakovsky pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson, préparé par Lauren Bess et dont la prise de son a été assurée par Vincent Hiver. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de Programme B que vous avez pu entendre sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on parlera féminisme.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.